Le rapport préliminaire est publié aujourd'hui parce que nous pensons qu'il est important d'en parler pour tirer la sonnette d'alarme et aussi pour donner un signal fort que la lutte contre l'impunité doit avoir sa place dans la situation actuelle où les viols continuent d'être perpétrés dans les zones à conflit.
Est-ce que ce rapport a permis donc de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à Walikale ou est-ce qu'il y a également donc des éléments complémentaires? On parle par exemple de 235 femmes qui ont été violées, de 52 filles, de 13 hommes. Est-ce qu'on pense qu'en fait ce viol avait une étendue beaucoup plus large?
Oui, parce que nos équipes n'ont pas pu parcourir toutes les localités touchées par ces bandes armées. Je pense que si l'équipe avait la possibilité d'aller un peu plus loin, il serait probable qu'on puisse enregistrer un plus grand nombre de cas. C'est pour cela que nous avons dénommé rapport préliminaire, parce que nous allons continuer à faire des investigations et aussi nous allons aider la justice congolaise à ouvrir des enquêtes judiciaires.
Justement, l'enquête que vous avez menée a été menée en gros du 13 au 17 août. On est quand même fin septembre. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour publier ces premiers éléments?
Parce que nous avons une procédure de sortir des rapports publics. Et aussi, il fallait recontrôler d'autres informations qui nous avaient été données par des sources. Et ce qui est important, c'est que l'équipe avait rencontré beaucoup de victimes.
Alors, en début d'entretien, vous nous disiez donc que le but principal aujourd'hui de publier ce rapport préliminaire, c'est de tirer la sonnette d'alarme, de prévenir de nouvelles attaques. Aujourd'hui, on sait que, d'après les éléments que vous donnez, qu'il y a plusieurs groupes qui ont été impliqués. On sait surtout qu'apparemment, il y avait une préméditation. Comment on peut établir aujourd'hui que cette attaque a été menée donc délibérément avec une préparation et une stratégie établie?
Vu la façon dont les présumés auteurs ont opéré, on a déduit qu'ils ont bien vu que les forces de sécurité avaient quitté les lieux, donc la population civile était restée sans défense presque, et ils ont passé à leur acte macabre. Nos collègues d'équipe d'enquête spéciale ont été sur place et ont pu parler directement avec la victime, ont repéré le point stratégique sur lequel étaient postés notamment les présumés auteurs.
Alors on le sait, dans cette région particulière donc de la RDC, dans l'est de la RDC, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de viols qui sont menés depuis longtemps. Pourquoi aujourd'hui cette attaque particulièrement attire donc les foudres de la communauté internationale et notamment les réactions vives, je pense notamment à celle de Navi Pillay? Pourquoi ce choque-t-on finalement aujourd'hui d'une chose qui semble être déjà établie depuis bien longtemps?
Parce que vous savez, vu le nombre de victimes, il est inadmissible que la communauté internationale et même la communauté nationale puisse se taire. Donc, il est grand temps d'élever la voix et de dire non, plus jamais ça.
On sait aujourd'hui que tant des casques bleus qu'également des forces armées de la République démocratique du Congo, ces forces-là, clairement, n'ont pas pu empêcher ces viols massifs. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui on a comme élément pour montrer les carences tant des casques bleus que de ces forces gouvernementales?
Les forces gouvernementales avaient quitté ces localités parce que la force estimait qu'il y avait moins de risques. Les casques bleus étaient aux environs de 30 km et il n'y avait pas de communication téléphonique. C'était une zone enclavée. La population n'avait pas la possibilité de faire des appels. Donc la nouvelle est arrivée un peu plus tard aux casques bleus. C'est la raison pour laquelle on a mentionné que les casques bleus devaient utiliser des interprètes qui ont été formés pour faire la liaison entre la population civile et les militaires.